La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Max et Mel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va super bien. Écoute, on entre en onde avec une petite toune à la guitare que tu nous as joué tantôt.
Dans le lounge en arrière?
Mais je savais pas.
Tu savais pas que je jouais de la guitare?
Je ne savais pas que tu jouais de la guitare.
Ah oui, je joue de ça depuis que j'ai 12 ans, un peu moins là, par les temps qui courent.
Wow.
Parce que j'en ai pas principalement, mais j'étais en programme musical au secondaire, donc c'est là que j'ai appris ça.
Nice! Moi, je connais trois tunes de guitare.
Ah oui, lesquelles?
Oui, je connais Good Riddance, je connais Zombie et je connais une tune de Nirvana.
Ah oui.
Zombie de Cranberries. Et c'est ça. Mais moi, je suis reine de la flûte à bec. Fait qu'on préfère un duo.
Oui, mais ça reste en... Ah non, c'est vrai, tu l'as amené à Noël.
Hey, j'ai accompagné le pianiste, là.
C'est vrai.
Pas à peu près.
C'est vrai. J'ai assisté à ça live et c'est assez impressionnant, moi, de dire.
Oui.
Non, mais sérieux, on te nomme n'importe quelle chanson et t'es capable de la chanter.
Mais j'ai comme un don, j'ai ce don inutile de pouvoir jouer n'importe quelle tune à la flûte à bec.
C'est vrai.
Mais c'est même pas une blague, là. C'est comme... J'entends les premières notes et ping, mon cerveau est capable de suivre. Donc, t'as l'air inutile.
Mais c'est fascinant, là, quand tu m'as fait le Titanic, j'ai presque versé une larme.
Oh.
Ah, c'était tellement touchant.
Max, t'as passé une bonne journée?
Oui, ça a bien été.
Yes.
Toi, tu te remets tranquillement pas vite?
Je me remets, oui, enfin. On a pu diagnostiquer là, mon mal. Donc, j'ai eu droit à un beau rendez-vous aujourd'hui à l'UMF, 5 fois à l'UMF Laurier, où j'ai pu découvrir que je traînais depuis 10 jours une sinusite et une otite.
Ah, nice! T'as gagné à l'auto de la maladie.
Voilà, mais c'est le fun parce que ça, c'est pas contagieux. Et j'ai enfin les antibiotiques pour m'aider à passer au travers tout ça.
All right.
Bientôt, je serai en feu, mesdames et messieurs.
Et t'auras encore ta belle voix suave.
Oui, je
tu
sais.
Tu la retrouveras, tout le monde.
T'aimes ça, hein? On n'a pas préparé une nouvelle érotique.
Ah non, je sais, j'adore ça quand tu
encore
me parles comme ça.
Encore demain, peut-être. Chers auditeurs, on aime savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. Écrivez-nous au 88-670-9098 ou en live sur TikTok pour une partie de l'émission. Donc, on vous invite à participer, mais on ne peut pas vous lire sur le live TikTok. Notre invité également ce soir est en live sur TikTok et nous avons la chance d'avoir avec nous Dr. Paul Simard, psychologue. Bonsoir.
Bonsoir.
Dr. Simard, on va aborder plein de petits sujets le fun ce soir, comme toujours. Mais surtout, on va ouvrir les lignes, chers auditeurs. Donc, c'est le temps, là. Tu sais, parfois, vous m'écrivez « Ah, avec le doc, j'aimerais savoir si, j'aimerais avoir l'opinion du doc pour ça. » D'ailleurs, je t'ai écrit récemment pour une jeune femme qui avait vécu une infidélité. Et je t'ai demandé, parce que, bon, elle s'est demandé, bon, finis-tu par passer au travers ça?
Ouais.
Est-ce que c'est vrai que mon amoureux peut changer et tout? Mais en plus, son amoureux avait été diagnostiqué comme étant narcissique, pervers narcissique. Donc, c'est ça, t'avais ton mot à dire là-dessus, je trouvais ça super intéressant. Donc, si vous avez envie de poser des questions au doc ou à nous-mêmes, eh bien, vous pouvez nous contacter au 88-670-9098 ou le 1-844-440-2464, c'est sans frais et vous pouvez interagir avec nous en onde. Donc, les gens, c'est ça, sur le live, les gens t'aiment bien, Paul. On adore se retrouver avec toi. J'aimerais, mesdames et messieurs, que vous soyez à l'écoute pour le prochain 2 minutes. J'aimerais vous faire écouter une vidéo qui va être en lien avec le sujet qu'on va aborder par la suite, moi et Doc Simard. J'aimerais, moi, Max et Doc Simard, bien sûr, parce que Max, j'aimerais avoir ton avis également. Donc, chers auditeurs, on va tout de suite écouter un petit extrait de ce que j'ai découvert aujourd'hui sur les réseaux. En fait, c'est Joe Brassard, qui est un fidèle auditeur, qui m'a envoyé cette vidéo, que j'ai trouvé sur le coup réaliste, mais après une discussion avec Doc Simard, ça m'a fait changer d'idée. Alors,
ce fameux Doc Simard, hein?
Doc Simard qui me remet toujours
jamais
en question.
D'accord.
Voilà, il est jamais d'accord. Donc,
as-tu
on
un trouble de l'opposition, Doc, ou...
Hey, changement de sujet.
OK,
passe.
Alors, on écoute ça, Mel?
On va écouter immédiatement l'extrait sonore.
Est-ce que vous savez ce qui rend un homme vraiment heureux en couple? C'est quand il voit sa partenaire heureuse. Est-ce que vous savez ce qui rend un homme vraiment heureux en couple? C'est quand il voit sa partenaire heureuse. La devise masculine du bonheur en couple, c'est « Si tu es contente, je suis content. » Parce qu'il se sent alors fort et compétent. C'est du gagnant-gagnant. Je suis à la maison en train de travailler dans le bureau. Ma femme Corinne rentre d'une réunion, son téléphone sonne. Elle papote 10 minutes avec sa copine. Les enfants l'appellent dans le jardin. Elle va les rejoindre et bavarde avec eux. Ça fait 20 minutes qu'elle est rentrée. Un de mes copains m'appelle et me demande « Comment ça va avec Corinne ?» À travers la fenêtre, je vois Corinne rire avec les enfants. Je lui réponds « Tout va bien, la vie est belle. » D'accord ? Mais l'inverse n'est pas vrai. Corinne est dans le bureau en train de travailler. Je rentre d'une réunion, mon téléphone sonne. Je papote 10 minutes avec mon copain, les enfants m'appellent dans le jardin, je vais les rejoindre et bavarde avec eux. Ça fait 20 minutes que je suis rentré. Une copine de Corinne l'appelle et lui demande « Comment ça va ?» avec Paul. À travers la fenêtre, elle me voit rire avec les enfants et elle va répondre « Écoute, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Ça fait une heure qu'il est rentré. Il est en train de rire avec les enfants dans le jardin. Il n'est pas encore venu me voir. Il doit y avoir un problème. » Il est heureux quand il la sait heureuse. Et elle est heureuse quand elle se sait unique à ses yeux. Exactement comme dans toutes les grandes comédies romantiques. L'homme n'a Dieu que pour sa belle. Il se bat contre vents et marées pour montrer à quel point il serait capable de la rendre heureuse pendant qu'elle se rapproche progressivement de lui par la grâce de l'attention toute particulière qu'il lui porte.
Merci, Max.
Oui, ben merci. Hein. Merci au gars qui a fait ça sur TikTok, qui d'ailleurs a complètement mal mixé la musique et qui a
oui.
fait l'audio buggy au début.
On n'a pas la source non plus, donc j'ai même pas le nom de la personne qui parle.
Non, ben regarde, on va
donc je suis désolée, mais je trouvais ça intéressant de voir.
Objection, votre honneur.
Je trouvais ça intéressant ouais. d'avoir le point de vue de monsieur, mais Doc...
C'est vrai que de manière générale, c'est très inspirant de faire des textes comme ça. Tout le monde peut un peu se relier à ce savoir général-là. Mais en tout cas, moi, je n'irais pas jusqu'à des aussi grandes généralités.
Mais c'est vrai. Je vais vous expliquer parce que. Est-ce que c'est parce que messieurs ont tendance à, tu sais, happy wife, happy life? Ouais, est-ce que c'est vrai ça, monsieur voit madame dans le jardin, heureuse avec les enfants? Waouh, ma femme est heureuse, je suis heureux. Madame voit monsieur en train de s'amuser avec les enfants dans le jardin. Bien là, je comprends pas pourquoi il rentre pas dans la maison. Là, il y a sûrement quelque chose à cacher.
Mm-hmm. Ben, ça nous amène sur la piste de la satisfaction et l'insatisfaction. C'est vrai que de manière générale, au début d'une relation, les hommes, quelque part, qui sont un peu loin de leurs émotions, ça peut être sécurisant, ça, pour quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions. Fait que là, la femme, elle pourrait se dire de manière générale, « Ah, je suis tellement bien quand je suis avec lui, ça me calme. » Sauf que sous cette apparence de calme-là, peut-être qu'il y a aussi une distance qui pourra s'accentuer à travers la relation. Puis là, il y a beaucoup d'hommes qui sont négligents d'eux-mêmes. Parce que dans la distance avec le contact émotionnel, il y a aussi une tendance à mettre une distance avec le ressenti physique. Donc, savais-tu que les hommes consultent moins?
Mais oui, on en a parlé d'ailleurs avec David, si je ne me trompe.
Oui.
En fait, est-ce que... Mesdames, en fait, semblent travailler beaucoup plus sur elles-mêmes, aller chercher des formations, des livres sur la croissance personnelle, travailler sur elles. Messieurs, pas tant que ça. On en voit tranquillement, de plus en plus, mais mesdames en font davantage.
Ouais.
Et tu m'as dit quelque chose que je trouvais pas faux, en fait. Mesdames ont tendance à être moins satisfaites que messieurs parce qu'elles se comparent constamment et sont beaucoup plus à l'écoute.
La conscience
des
de
problèmes
soi
et
des problématiques. Parce que dès qu'on tourne beaucoup notre attention sur nous-mêmes, on découvre beaucoup de mécontentement ou de frustration. Fait que ça, c'est des recherches qui ont démontré que les personnes centrées sur eux, tu sais, quand on vous dit de travailler sur toi, prends le temps de te connaître, il y a une limite à ça.
Ouais.
Ça peut être bon. C'est vrai que ça en prend pour se développer, mais partiellement. Il faut aussi apprendre des compétences d'aller vers l'autre.
OK.
Il y a des gens qui, à force de regarder puis de fouiller à l'intérieur d'eux, ils ouvrent des blessures, puis ils découvrent du mécontentement de plus en plus. Puis là, ils tournent leurs yeux vers le monde une fois qu'ils sont blessés de l'intérieur. Puis là, ils se comparent avec les autres, puis ils disent « Ben oui, mais moi, j'ai pas telle affaire. L'autre a de l'air heureux. »
Il y a de l'air.
Ah oui, puis la comparaison, c'est la source de l'insatisfaction.
Faut pas se comparer.
Alors...
Non, c'est pas plus beau, c'est pas plus vert chez le voisin. Là. C'est juste que le voisin, il arrose son terrain,
ça
peut-être.
Ça demande une bonne pogne sur le travail affectif pour être capable de se comparer sans tomber dans l'envie. Puis là, quand on se compare, qu'on peut dire « Wow, ça m'inspire ce que l'autre a développé. Moi aussi, je voudrais aller par là. Wow! » Mais si on l'a fait, cette observation-là, basée sur une insécurité, c'est sûr qu'on tombe dans « Ah ben là, Paul, là, je suis sûr qu'il y a dû crosser le système pour arriver là. » Ou « C'est un fraudeur. » Les gens vont projeter toutes sortes de fantaisie là, pour expliquer le fait que oh, ben, moi, je ne l'ai pas, puis lui, il l'a. On appelle ça des projections.
Ouais.
Très intéressant. Donc, tu n'es pas tout à fait d'accord avec, ce que la vidéo démontre finalement comme point.
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas juste un point. On aurait pu la segmenter en 4 petits segments.
Hein? Vas-y donc, on peut-tu?
Ben là, je ne l'ai pas tout en mémoire. Il aurait fallu qu'on travaille ensemble.
Oui, absolument. OK, c'est ça. Moi, je t'ai pitché ça sur le fly. Parce que ce soir, c'est un peu ça aussi. Mm-hmm. Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer des sujets par écrit au 418-670-9098 ou nous appeler directement 1-844-440-2464 ou le 418-670-9098 et on pourra élaborer avec vous sur différents sujets. Donc, d'ailleurs, aller dans des sujets qu'on a reçus aussi avec la sexploratrice, la boîte à mail. Finalement. Je voulais également qu'on parle de la violence chez les hommes et les femmes. On va faire le tour rapidement. Ça va être de façon très soft parce qu'on en a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines, dans l'actualité. Mais je t'ai entendu dire dans un podcast qu'il y avait de la violence autant chez les femmes que chez les hommes. En fait,
un peu plus chez les femmes.
Un peu plus chez les femmes même, c'est ça.
Et ça a fait lever des passions.
Oui. Mais, en fait,
mais quand on parle de violence, on parle de quoi exactement? Il y a plusieurs types de violence. Puis à la base, je pense que dans la vie, c'est violence, en fait. On se fait violence à tous les jours, à une petite échelle.
Si on veut, mais moi ici, je parlerai surtout de violence verbale. Violence physique, mais pas nécessairement envers un humain, mais bien envers des objets. Ou même envers l'humain, en fait. Mon fils étant plus jeune, m'a déjà demandé, en fait, « Maman, pourquoi une femme qui pousse un homme ne va pas en prison, puis un homme qui pousse une femme peut aller en prison? »
C'est vrai, c'est une bonne question. C'est quoi la réponse que tu as donnée?
J'ai patiné en tabarouette. Je me rappelle pas exactement ce que j'avais répondu. Mais, tu sais, clairement, il y a raison. Il y a raison. Mesdames...
Il y a deux standards différents.
Exactement. Mais
c'est parce que la violence physique des hommes est beaucoup plus destructrice que la violence physique des femmes.
C'est ça.
C'est pour ça qu'elle est visible.
Moins, elle est plus remarquable.
C'est ça.
Ouais.
Parce qu'elle détruit.
Oui.
T'sais, le fait de pousser quelqu'un qui est plus gros que toi, ça laisse... Moi, ce que j'entends souvent en clinique, c'est de dire, ben mettons, il y a des femmes qui se sont permis de violenter leur mari physiquement, en disant, ben il est beaucoup plus gros que moi, il est capable de se défendre. Mais ça, c'est un peu mal comprendre le rôle de la violence dans une dynamique conjugale. Hein, parce que ça peut être très insidieux, ça vient miner l'estime de la personne, ça la met en doute, ça crée de la confusion dans le quotidien, de la peur. Fait que c'est vraiment pas une question de grosseur.
Je connais quelqu'un qui est vraiment là, tout doux, là, qui avait pas du tout un tempérament impulsif ou explosif, qui était avec une conjointe très explosive, manipulatrice un peu, sournoise et tout ça, qui, elle, cassait des assiettes. Là, elle s'en permettait beaucoup et tout ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais, s'est mis à le pousser, cracher au visage et tout. Il l'a poussé. Il l'a comme repoussé, finalement. Il se défendait, mais bon, il l'a poussé. Puis là, ça en est suivi de séparation, accusation, tout ça. Mais il en a toléré en tabarouette avant de se rendre là.
C'est clair. Toute forme de violence est inacceptable. Puis moi, quand je vous parle de chiffres ou de tendances générales, j'ai été très surpris, moi aussi, en lisant les études scientifiques là-dessus, là, sur les taux de rapport de présence de violence, puis c'est toute forme de violence confondue, là, moi, avec les chiffres que je parlais. Là.
Mm-hmm.
On parle ici de violence physique, de violence sexuelle, de violence émotionnelle, psychologique, de violence financière également. Et donc, dans toutes les formes de violence confondues, si je me souviens bien les chiffres, c'était l'initiateur du premier coup, c'était dans 52% du temps les femmes. Donc, c'est pas si loin, là, de moitié-moitié. Là. Quasiment égal, un petit peu plus élevé pour la femme. Mais par contre, il faudrait inventer un nouveau terme dans la culture populaire qui nous parle de l'indice de dangerosité. T'sais. Parce que là, dès qu'on inclut dans le mot « violence » les violences psychologiques, sexuelles, financières, le mot « violence » a comme perdu un peu de sa connotation qui était destructrice physique. Là.
Exact. Ouais.
Donc, on ouvre à des nuances qui ne sont pas encore totalement fini là, de se nuancer.
J'ai lu cette étude-là puis je la trouvais vraiment intéressante du point de vue qu'il y a une grande disparité, comme tu le dis, entre la violence qui est faite aux hommes et aux femmes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en généralité, sans faire de généralisation, les femmes font plus de violence psychologique et les hommes plus de violence physique et sexuelle?
Je sais pas. J'ai pas en mémoire les statistiques là-dessus. Ça me semblerait être très intuitif, en tout cas ton hypothèse. Mais je la remettrai en doute, moi, personnellement.
Pour quelle raison?
parce que je pense pas que la violence psychologique, c'est l'apanage d'un sexe en particulier. Puis j'ai l'impression que les violences physiques, c'est justement, vu qu'il y a plusieurs coups qui passent inaperçus, il n'y a pas un taux de déclaration super élevé. Les hommes ne déclarent pas beaucoup.
En considération que l'homme est plus fort que la femme, la femme, c'est peut-être sa façon à elle, justement, de le violenter.
D'avoir du pouvoir.
Que mesdames aussi ont tendance à le faire et en groupe aussi, parfois.
En groupe?
Ouais, la médisance.
Oui, exactement. Puis ils vont vraiment comme en parler là, à leurs amis ou
saper
leurs proches.
Saper la réputation.
Puis... Oui, c'est ça. C'est comme
tourner le dos
sournois.
D'une. On ne l'invite plus à souper, elle, mais on ne dit pas pourquoi. Oh, ça, c'est violent émotionnellement.
Oui. Ben, mais j'ai l'impression que c'est plus courant chez les femmes que chez les hommes.
Ben, quand on regarde les études qui ont été faites sur les comportements violents chez les enfants, là, la nuance qu'on peut faire, c'est quand on regarde un paquet de petits gars ensemble ou un paquet de petites filles ensemble, puis qu'on leur demande après là, de rapporter le... au petit gars, là, le taux de violence qu'il y a eu dans le groupe, on a pas mal un chiffre qui est représentatif des observations là, faites par l'observateur. Okay. Mais quand on demande au groupe de petites filles, genre, il y a eu combien de taux de violence qui s'est fait dans le groupe même, ben, souvent l'expérimentateur ou l'observateur va évaluer beaucoup plus en dessous de ce que les participantes elles-mêmes rapportent. Parce que même les observateurs dans les laboratoires d'entraînement sont souvent entraînés à coter la présence de violence sous forme de gestes, mettons, de pousser, de donner un coup, alors que les filles, entre eux autres, peuvent ressentir une profonde violence. Comme, mettons, t'essaies de te joindre à un groupe d'autres filles que tu connais pas, puis là, cette gang-là de filles-là te tourne le dos, puis continue de parler entre eux autres en s'éloignant de toi. Oh! Hey, la violence du sentiment d'exclusion, là. Ça, c'est rapporté, c'est senti à l'intérieur du groupe. Mais peut-être pas par un observateur externe qui a juste vu des gens tourner leur dos. C'est bien différent qu'une claque sur la gueule.
Puis comment on fait pour mesurer la violence psychologique du point de vue où on n'a pas tous la même tolérance à la violence? C'est-à-dire que je pourrais traiter quelqu'un d'abruti qui le prendrait mal et l'autre personne, ben, ça écoulerait sur le dos comme de l'eau sur un canard. Comment on fait pour mesurer qu'est-ce qui est de la violence psychologique et qu'est-ce qui n'en est pas?
Ben, je pense que c'est comme la violence physique, en fait.
Ouais, je pense que c'est un peu plus
insidieux.
Ouais, c'est peut-être plus pernicieux, plus difficile à détecter.
Ben, on va aller vers des indicateurs un petit peu différents. On va parler plutôt d'observation d'intimidation ou de harcèlement. C'est le harcèlement, il va avoir une tendance à la répétition, c'est de saper le moral ou de nuire à la réputation ou de intimider, mais de manière répétée. C'est ça, on pourrait dire c'est le harcèlement. Ouais, c'est ça. Puis l'intimidation, ben, c'est mesurable à travers les rapports de force. Donc c'est de cette manière-là c'est les meilleurs concepts que violence psychologique.
Ah, c'est intéressant.
Très intéressant. Donc, docteur, j'aurais aimé ce soir qu'on parle des patterns, de partager une petite vidéo qui expliquait un peu pourquoi qu'on se retrouve souvent dans le même pattern.
Ah oui.
J'ai déjà dit, en fait, à une amie qui me disait, on en a déjà parlé ensemble, si je ne me trompe, mais je suis toujours dans des relations toxiques. Je me ramasse toujours avec des trous de cul qui ne prennent pas soin de moi, qui me manipulent, qui me trompent ou blablabla. Puis là, j'ai dit, OK. Puis le dénominateur commun de toutes tes ex, là.
C'est toi.
C'est quoi? C'est toi. Donc, prends un miroir.
Hey, tu l'as confronté fort.
Je l'ai confronté. Non, à un moment donné, ça va faire. Mais comment? En fait, moi, ce que je lui ai dit, OK, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, c'est un peu ta faute, en quelque sorte. C'est pas ta faute de subir tout ça, en fait, mais tu mets pas tes limites. Tu laisses la personne te traiter comme ça. Ouais. À partir du moment où la personne pose un geste ou il se passe une situation qui ne te convient pas, tu as le choix, t'en parles, tu règles la situation, ça se règle. Si ça se reproduit à nouveau, tu décides de rester, en quelque sorte, tu lui donnes le pouvoir.
Mais ça, c'est parce que les gens, ils enchaînent les relations, mais ils tirent pas de leçons, ils tirent pas d'apprentissage.
C'est ça.
C'est ça que je voulais parler, moi, dans ma capsule vidéo.
Oui.
C'est que je vois que les gens... ils sont tannés, puis ils mettent comme un facteur de protection la fin de la relation. Ben, OK, c'est la fin de la violence ou de l'abus ou du dérapage avec cette relation-là. Mais vu qu'ils n'ont pas tiré une leçon sur comment eux, ils ont entré dans le pattern ou comment ça se passe à l'intérieur d'eux quand ça se déclenche le pattern, ben, ils font juste le répéter avec quelqu'un d'autre. Donc, on pourrait dire que travailler directement sur les obsessions, les croyances limitantes, des fois, c'est trop confrontant pour une personne. Fait que plutôt que de travailler directement là-dessus sur la blessure, moi, j'invite les gens à faire une observation, à tirer des leçons d'apprentissage sur toutes les étapes. Là, comment je tombe dans la crise, puis comment je ressors de la crise. Puis tant qu'on n'aura pas tiré des leçons sur ce pattern-là, on le répète. On le répète, ouais. On fait grandir la blessure.
Le fait de ne pas être capable de tirer de leçons d'après ce que tu remarques, est-ce que c'est juste que les gens ont du mal à faire de l'introspection ou le fait que quand une relation se termine, c'est tellement douloureux qu'ils sont dans l'incapacité de le faire?
Ben, y a des gens qui ne savent même pas comment on fait pour tirer une leçon à un apprentissage.
Mm-hmm. Comment on fait?
Il fonctionne au feeling.
Ben, on veut le guide.
Comment on fait? Y a-t-il un guide?
Il y en a.
Tirer une leçon.
Il va falloir souvent aller chercher de l'aide, t'sais, d'un professionnel de la santé pour avoir, moi, ce que j'appelle une injection de sentiment de sécurité. Parce que par la présence sécurisante de votre aidant, vous allez pouvoir retrouver la maîtrise de vous à l'intérieur de vous. Là, vous vous sentez équipé à nouveau. Puis là, on réfléchit mieux. Mais dans notre quotidien, si on ne prend pas le temps de se resécuriser, là, on est pris par la folie des activités à faire un après l'autre. Là. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la job, le ménage. Il y a tout le temps quelque chose d'autre à faire que de plonger dans notre souffrance intérieure pour essayer de la comprendre.
Hein. Est-ce que l'hypnose peut aider, tu penses?
Ben, de manière scientifique, l'hypnose, moi, je la recommanderais pour deux affaires. Je la recommanderais pour aider les personnes qui veulent relaxer et aider les personnes à gérer des douleurs. Mais à part de ça, l'hypnose a été beaucoup utilisée puis continue encore d'être utilisée pour des traitements de plein de sortes de troubles. Puis, c'est pas super validé scientifiquement.
Ah!
Mais par contre, c'est une technique. Puis parfois, il y a des professionnels de la santé qui vont utiliser plein de sortes de techniques pour arriver au même objectif. Fait que là, on entre dans un sujet très complexe rendu là. C'est quoi la différence entre la technique d'hypnose et la psychothérapie qui utilise l'hypnose? Ah, là, ça prendrait des heures à nuancer.
OK.
Mais j'aurais pas tendance à proposer l'hypnose pour ce genre de sujet-là, de pattern.
Non.
Parce que c'est comme si on va essayer de, guillemets, convaincre quelqu'un qu'il n'est pas en danger, ou c'est qu'on va le convaincre qu'il n'est, on va lui suggérer qu'il n'est pas dans un pattern de violence.
Des patterns de violence ou de relations toxiques peut-être, mais tu sais, quelqu'un par exemple qui a un pattern de, une fois qu'il a réussi à séduire une personne, quand la personne est en couple, la personne veut changer l'autre et devient hyper, ne cesse de critiquer, veut contrôler, veut changer, voudrait que l'autre fasse ci, fasse ça.
Ouais.
Ça, y a-tu quelque chose?
Ben, un peu comme la passion amoureuse, il faut l'essayer pour savoir que c'est pas ça de l'amour.
Oui, c'est vrai.
Il y a personne qui peut nous l'apprendre, tu sais, théoriquement. Vous avez bien beau lire les meilleurs livres au monde sur l'amour, tant que vous l'aurez pas expérimenté, là, puis vous n'aurez pas pété à face sur la passion amoureuse, puis l'avoir souffrir, là, ben, vous comprendrez pas c'est quoi.
J'ai déjà lu que les gens qui faisaient de l'anosmie, qui n'avaient pas d'odorat, ne ressentiraient jamais l'effet euphorisant du coup de foudre.
C'est vrai?
Oui, ils ont fait tests aussi sur des souris. Est-ce que tu as déjà entendu ça, toi?
Non. Mais je trouve ça un peu surprenant parce qu'il y a une différence entre la réception des phéromones et les odeurs.
Ouais.
Et souvent, les gens, ils mélangent les deux. Parce qu'ils pensent que, vu que ça rentre dans le nez, c'est la même affaire.
OK.
T'sais, ça sent les phéromones. Mais non. C'est deux trucs différents.
Ça n'agit pas au même endroit.
Oui, c'est ça. Ça rentre, c'est vrai, dans les cavités nasales, mais c'est pas les mêmes terminaisons nerveuses.
OK. En tout cas, les souris, puis les tuations.
Ça se pourrait, Faudrait examiner le protocole.
Mais parlant des patterns, là, qu'est-ce qui fait que, chez les victimes de violences conjugales, par exemple, il y a toujours un certain moment avant qu'ils se rendent compte de ce qu'ils vivent? C'est-à-dire qu'ils ont toujours tendance à revenir vers le conjoint ou la conjointe qui les violente, comme s'ils étaient complètement déconnectés de la réalité, quand on sait qu'au fond, pertinemment, ils savent ce qu'ils vivent. Mais tout de même, ils reviennent toujours vers l'autre. Ce syndrome-là, comment tu l'expliques?
C'est parce que l'équilibre psychologique et conjugal, c'est complexe. Puis toi, c'est sûr que quand tu le dis comme ça, on a quasiment à croire qu'un comportement de violence, c'est facile à identifier comme une unité. Là, mais en réalité, ça s'intègre dans un équilibre complexe de partage du pouvoir puis de transactions émotionnelles. Fait que même si on nomme un comportement, tout le monde va être d'accord pour dire « Ben là, s'il te trompe, mets fin à la relation. Ben là, s'il te bat, mets fin à la relation. » Mais en réalité, tout c'est complexe. Parce qu'il y a une personne qui se fait violenter, là, si elle décide de partir, le coût de partir, des fois, il est supérieur à la conséquence de rester. Comme, mettons, perte du réseau familial, perte d'argent, perte d'accès à pouvoir être présent avec ses enfants.
Mais ça, rester jamais dans une relation pour... En fait, je pense que... Puis c'est drôle parce que dans le Space Cash, juste avant nous, j'écoutais un criminologue discuter de ça un peu. Puis ce qui fait que les gens restent souvent, c'est l'espoir.
Entre autres.
L'espoir que l'autre change. Puis une amie m'a dit, elle avait vécu de la violence conjugale, et en fait, quand ça se fait...
Ils sont repentants.
Bien, lorsque ça se fait sous l'effet d'alcool ou de drogue ou de substances, bien, la personne n'est comme pas elle-même lorsqu'il arrive des situations violentes, que ce soit envers elle ou envers d'autres personnes ou des objets dans la maison et tout ça. Donc, quand la personne revient, quand la personne violente revient elle-même, bien, elle est sincèrement désolée. Puis, tu sens la tristesse et le mal-être de l'autre à un point tel que tu dis... Regarde, tu vas t'en sortir, tu sais. Puis tu veux l'aider, la personne, là. Parce que tu le vois qu'il y a un problème. C'est juste que, bref, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est l'espoir que l'autre change.
Mais quand ça fait 2-3 fois que ça arrive, il n'y a aucune bonne raison de rester.
Non, c'est
ben
sûr.
Oui, il y en a des raisons.
Mais non, il n'y a aucune bonne raison de rester. Non, si ton chum te frappe...
Il y en a, c'est plus complexe que vous pensez. Moi aussi.
Je comprends que c'est plus complexe qu'on
pense. En début
de
carrière, mais... là, moi, je ne recevais pas de gens qui avaient été victimes de violences conjugales justement pour cette raison-là. Parce que ça me semblait évident qu'il fallait laisser la personne.
Tout est interrelié.
Ouais, puis vu que ouais,
mais c'est parce que là,
capable...
la vie est en danger. Hein? La vie de la personne est en danger.
C'est vrai.
Mais c'est parce que si tu restes, j'ai l'impression que tu t'auto-frappes toi aussi après.
C'est vrai, ça aussi.
Tu acceptes la violence,
c'est
par
ça,
exemple,
c'est
de ton mari, puis après
l'autre.
Ça, ben,
de manière
tu
réaliste.
Donnes des toi-même d'en face en restant. C'est un peu ça que tu fais.
C'est vrai. Mais de manière réaliste, parfois, il faut adopter une approche qu'on va appeler réduction des méfaits et non pas plonger dans la santé. Parce que si on va trop vite vers des facteurs de santé, des fois, on va scraper les repères de base de la personne. Comme je disais, imaginons une femme qui se fait battre par son mari. Puis que là, tout d'un coup, elle décide de le laisser. Mais là, elle ne sera pas là pour voir qu'est-ce qu'il fait avec les enfants quand elle ne sera plus dans la maison. Peut-être qu'il abat les enfants. Puis avant, peut-être qu'il
protégeait
les enfants.
Mais là, si elle est victime de violences conjugales, j'imagine que les services sociaux...
La DPJ vont être dans le dossier, c'est sûr. Mais imaginons un cas fictif comme ça où l'inquiétude de ne pas pouvoir être là pour protéger ses enfants si les enfants... Donc, les situations sont tellement complexes souvent que les gens vont endurer...
C'est pas aussi simple qu'on peut penser que de se séparer d'une personne violente.
Oui, puis le désir là, de mettre fin, de solutionner la chose pour l'autre, là, ça rentre plutôt dans le registre sympathie-antipathie. Donc, la sympathie, c'est « on est d'accord que c'est terrible, hein? » Puis l'autre, il est méchant, antipathie. Mais pour aller plus loin, pour ne pas être pris dans les réactions, c'est sympathie, antipathie, il faut monter d'un étage dans ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est « je ressens ta souffrance, mais ça ne crée pas de confusion à l'intérieur de moi. » Donc là, je suis capable de tendre une perche à l'autre pour lui dire « quel genre d'aide que tu as besoin? » T'es rendu où dans ton cheminement par rapport à ça? Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent la violence conjugale, il faut préparer le terrain progressivement.
C'est
ça peut prendre des mois à préparer le terrain pour qu'ils quittent une relation.
Oui, je comprends que c'est complexe, mais il y a quand même des ressources qui existent vers lesquelles on peut les rediriger.
Mais
ces
quand
femmes-là,
tu vis ça, là,
par
t'as
exemple,
pas envie d'en parler.
Non, tu veux pas en parler parce que c'est honteux.
Exact.
C'est honteux, puis surtout quand ça fait 2-3 fois que ça arrive, puis que tu justifies, par exemple, les mots que tu as sur ton visage par des raisons bidons, la 4e fois que ça arrive, tu veux pas te dévoiler. Là. C'est clair que c'est honteux, c'est clair que ça fait mal. Mais c'est parce que si tu acceptes ça, c'est toi que tu continues de violenter.
C'est
comme si tu donnais des coups de poing d'en face, comme je disais tout à l'heure, puis ça va aller en s'empirant. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que c'est une toile d'araignée. Quand ils sont pognés là-dedans, le conjoint ou la conjointe leur joue tellement dans la tête, en plus de les violenter, qu'ils se retrouvent dépourvus, puis il n'y a plus de solution possible.
Mais des fois, il n'y a même pas de jouage dans la tête. C'est vraiment que la personne, quand elle est à jeun, revient elle-même, puis elle n'est pas comme ça au quotidien, là, tu sais. Mais elle se sent tellement mal que le conjoint qui se fait violenter, tu sais, veut pas non plus briser la famille. Parce que si les enfants ne sont pas impliqués dans tout ça, puis qu'ils n'ont jamais eu connaissance de rien, c'est dur de mettre. C'est difficile de sortir de ça, là.
Oui.
Puis il y en a qui s'en sortent puis qui retournent quand même.
Ouais.
Puis la lune de miel après la violence, c'est tellement intense, c'est comme une drogue.
Le cycle de la violence, le connais-tu, Maxime?
Non, je le connais pas.
Ah, peux-tu nous rappeler le cycle de la violence?
Il y en a plusieurs formes, mais sa plus simple expression pourrait dire que il y a un conflit qui apparaît dans la relation. Les conflits, c'est normal. Mais là, s'il y a un dérapage dans le conflit, là, tu sais, qui va vers des coups de... des coups de cochon ou du sabotage ou de la violence carrément, là, bon, ben là, ça devient destructeur. Fait que le conflit devient destructeur qui ensuite alterne à une phase de réparation de lune de miel qui va inévitablement voir rejaillir des conflits parce que c'est normal, les conflits. Puis là, oups, dérapage dans la violence-destruction, lune de miel, réparation, reconflit. Donc là, ça tourne en boucle.
Ah, c'est un cercle vicieux.
C'est ça. Fait que la solution, ça va être, au niveau du conflit, il faut apprendre des stratégies de désamorçage des tensions pour neutraliser la charge, pas glisser vers la destruction.
Il y a un autre point là, qu'on n'aborde pas assez souvent aussi, là, c'est l'entourage des femmes ou des hommes battus. Comment on devrait réagir, par exemple, si on sait qu'une de nos chums de filles, un de nos chums de gars se fait battre à la maison? Y a-tu des choses qu'on peut mettre en place pour l'aider ou à tout le moins arriver à, oui, à ce que cette personne-là se rende compte de ce qu'elle vit?
Oui, il faut humaniser la relation. C'est-à-dire que, imaginons que c'est l'équivalent d'essayer de sortir une personne d'une secte, là.
À ce point-là.
Si vous dites à une personne qui est dans une religion ou une secte, voyons, on sort de là, ils sont en train d'abuser de toi, elle va dire, t'es le diable! Elle va te prendre comme étant l'antagoniste. Là, fait que c'est la même chose avec une personne qui se fait violenter. Si vous la confrontez trop rapidement sur l'importance de quitter, elle va backer. Elle va se réfugier dans son cercle de violence, puis elle va plus vous confier des choses.
Oui, parce que c'est gossant là, de se faire dire, t'es sûr que t'es correct, ouais, t'es sûr que ça va aller. Ça.
Fait que moi, je nuancerais comme ça. Je nuancerais en humanisant, en disant un truc du genre.
On comprend.
Là, je le vois que ça va pas, là, ta situation, puis sache que je suis là si t'as besoin d'en parler. Puis moi, je m'inquiète pour toi. Puis je vais être là si t'as besoin d'aide. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on parle encore un peu de ça? Si la réponse est non, ben sache qu'en tout cas, moi, je vais continuer d'être vigilant là, pour checker comment ça évolue parce que je m'inquiète pour toi. Mais si c'est oui, OK, go, on entre encore plus profondément.
Okay.
Est-ce que tu penses que ça peut être génétique, la violence comme ça d'un père en fils, ou c'est des comportements qu'un enfant peut avoir vu qui fait que qu'il reproduit ça?
Le
peut-être?
Tempérament, ça a une base génétique. Donc, il y a des tempéraments un peu plus colériques, mais la violence, c'est pas quelque chose qui est hérité. C'est un comportement beaucoup trop complexe. Donc, c'est foncièrement appris.
Ça fait partie de l'environnement social dans lequel on évolue.
Oui, il y a beaucoup de modelage qui est fait là-dessus.
Il y a quelqu'un qui nous... je la nommerai pas finalement, mais il nous dit « J'ai enduré de la violence conjugale pendant plusieurs années. J'ai dû voir un travailleur social pour m'en sortir et reprendre confiance en moi. Au final, j'ai mis fin à cette relation et même après la séparation, il a continué de me détruire par le biais de notre enfant. C'est notre fils qui en a souffert. Je me demande encore si j'aurais dû endurer cette violence pour le bien de mon garçon. »
Ouais.
L'aliénation parentale.
Ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure, Paul.
C'est fou.
Mmh. Ah, l'aliénation parentale, c'est épouvantable.
Ça fait des dommages à vie là, à votre enfant.
Oui. Puis l'enfant, il va préférer se détester lui-même que de détester l'autre parent. Fait qu'il,
c'est un réflexe naturel.
Oui.
Oh mon Dieu.
Pour préserver l'équilibre puis l'attachement, puis parce qu'il ne sait pas comment survivre un enfant sans la présence des figures d'attachement. Là. Il va préférer se détester lui-même pour absorber le choc de la charge, en espérant que les autres s'aiment, là, puis qu'ils soient corrects, puis qu'ils le rejettent pas. Là.
L'important dans ce genre de situation-là, quand il y a un des deux parents qui fait de l'aliénation parentale, est-ce que c'est de défaire l'aliénation ou peut-être juste de compenser par de l'amour ou une autre forme d'émotion qui pourrait arriver, qui pourrait nous mener à ce que l'enfant comprenne par lui-même ce qu'il vit?
Bien, l'aliénation, c'est rendre étranger. Ça veut dire que ça fuck. Ça sort de la norme. Là. C'est comme sortir de l'autre. Fait que la première clé que je tourne en thérapie avec les gens qui veulent traiter ça, c'est la validation. Valider l'émotion pour la souffrance. Mettons, je dirais à l'enfant, « Oh, fait que ça se pourrait-tu que ça te mélange quand t'entends des paroles comme ça des fois? » Oui. Ah, si on obtient un oui, on est dans la validation. C'est un début là, d'ouverture pour rentrer dans le monde affectif. Avant de guérir des choses en profondeur, là, il va peut-être falloir passer une centaine d'étapes de validation, là.
À partir du moment où vous avez des doutes que votre conjoint, conjointe pratique l'aliénation parentale avec votre enfant, vous avez des ressources hein, disponibles. Vous pouvez parler avec un travailleur social. Vous pouvez... La DPJ, en fait, peut même s'en mêler là, dans les cas d'aliénation parentale.
Ben oui.
Puis ça ne peut prendre à la légère, vraiment. Puis s'il vous plaît, essayez donc de vous parler entre adultes. Mêlez pas vos enfants à ça. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas à être mêlés à tout ça.
Oui, mais l'affaire,
bon
c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui agissent encore comme des enfants.
C'est une question d'ego.
Puis surtout, quand on est blessé, on a tendance à vouloir blesser l'autre. Parce
vraiment,
que, comme on le disait en début de bloc, les gens ont du mal à faire un examen de conscience d'eux-mêmes d'habitude. Fait que, mais tu as tout à fait raison. Le meilleur, c'est d'aller voir des ressources. D'ailleurs, il y a le Carrefour Aliénation Parentale Québec qui existe.
Ah, je connaissais pas.
Moi non plus, je connaissais pas ça.
Merci, Google.
Ça existe, donc sachez que si vous en avez besoin,
Carrefour Aliénation Parentale.
Faire une recherche facilement
très
sur Internet, puis aller ben, vous procurer les informations relativement à tout ça. Les travailleurs sociaux, aussi, j'imagine que ça aide.
Exact.
Toi, Paul, dans ta pratique, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais aider aussi?
Ben oui. Moi, je reçois des fois des parents qui ne sont plus en couple d'amoureux ensemble, mais ils veulent essayer d'être un couple parental. Fait qu'ils se disent, mettons, on a peut-être échoué notre couple d'amoureux, mais on ne va pas échouer notre couple parental.
C'est beau,
là, ils viennent en thérapie, ils sont en amour avec d'autres mondes, chacun de leur bord, puis ils viennent progresser dans le développement de leurs compétences relationnelles quand même. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau.
Vraiment. Ah, puis il y a aussi la médiation. Oui. La méditation, c'est bien beau, là, mais la médiation, c'est à votre portée, c'est gratuit pour les 5 premières séances lorsque vous vous séparez. Ça, ça peut vous permettre aussi de vous séparer un peu plus en douceur.
Ça, s'il y a des enfants, ça fait partie des programmes de justice alternative. Un médiateur accrédité, agréé, dans le fond, est un professionnel de la santé qui est allé chercher une spécialisation là, pour avoir le droit de pratiquer ce genre d'exercice-là. Puis c'est payé par le gouvernement.
Yes. Chers auditeurs, c'est déjà la pause. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice. On est en live également sur TikTok. Merci d'être présent si grand nombre. Malheureusement, on est incapable de lire les commentaires, là. C'est trop petit. Donc, écrivez-nous 418-670-9098. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez envie. On ouvre les lignes. Appelez-nous 418-670-9098 ou le 1-844-440-2464. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X, en compagnie de Max, Mel et Dr Paul Simard, psychologue, avec qui on peut parler de tout sans tabou.
Ah, elle n'aura pas de... zéro secret.
Zéro secret. Aucun secret. Pas de limite. Okay. On peut parler de tout, vraiment. Donc, il y a Paul qui dit... sur le live TikTok que je réussis à lire maintenant. Merci, Paul. Donc, j'adore vous écouter à chaque mercredi en revenant de mon cours de danse.
Oh yeah.
Yes, sir. Paul, j'avais envie de parler avec toi de la valorisation chez l'homme.
Oui.
Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins de valorisation chez l'homme et chez la femme.
Mm-hmm.
Allons-y avec l'homme. Et si on a le temps, on y va avec la femme. Sinon, on poursuit lors de ta prochaine visite avec celle de chez la femme.
Ouais, ben, ça vient d'observation, ça, qui nous disent... qu'est-ce qu'ils veulent, les hommes?
Oui.
De quoi ont-ils besoin? Puis là, on entend toutes sortes de propos de la psychologie populaire comme les hommes veulent du sexe.
Oui.
Les hommes veulent de la nourriture.
Puis les hommes parlent pas, ils n'ont pas besoin de parler. Puis les hommes gardent leur émotion en dedans.
Mais pour comprendre ce que les hommes apprécient le plus de manière générale, on peut se fier aux études scientifiques sur le stress. Puis dans les facteurs de stress, celui qui est le plus sensible, c'est l'ego masculin.
Oh.
Ça veut dire que les hommes, on a juste besoin de dire à un homme, « Chérie, faut qu'on se parle. » Pic de stress!
OK. Et là, parce qu'il est en pic de stress, il se referme.
Il se referme sur lui, c'est ça.
Ah.
Mais l'inverse de ça, ça veut dire aussi que si les hommes sont très vulnérables à la critique de leur ego, donc se faire dire, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Là, t'as mal fait les choses encore. Bon, t'as mal passé le balai. Bon, t'as mal lavé la vaisselle. Ça stresse au bout de les hommes. Ça veut dire aussi que les hommes sont très manipulables par la valorisation.
Oh.
Fait que moi, j'ai vu des thérapies de couple changer bout pour bout dans lesquelles il y avait des plaintes, dans lesquelles, mettons, madame pouvait dire un truc du genre « T'as pas fait la vaisselle encore une fois! » Puis là, le gars, il faisait moins la vaisselle, il était moins souvent à la maison. Puis j'ai dit « Et si vous transformiez ça par « Mon chum, t'es beau quand tu fais la vaisselle! » Oh! Oh! Là, tout d'un coup, le monsieur commençait à faire plus souvent la vaisselle parce qu'il était valorisé dans la tâche.
Comme un chien.
C'est intéressant.
Ben oui. Ben, de manière très simple, si l'ego masculin est comme si fragile... On peut utiliser ces leviers-là également sur nous parce qu'on a le même système nerveux autonome. T'sais.
On a quelqu'un qui appelle.
Ouais.
On va-tu le prendre?
C'est toi qui y parles.
Ouais.
On y va. Radio X, bonsoir.
Hello, hello.
Bonjour, vous allez bien?
Ça arrête pas de bien aller, toi?
Oui, ça va bien. Ça pourrait aller mieux.
Qu'est-ce qui se passe?
Je suis surpris de voir que vous répondez parce que ça fait quelques reprises que j'hésite à le faire, que je tente de le faire. C'est la première fois que j'ai une réponse quand je le fais.
OK. On parle avec qui, là?
Est-ce qu'on est live à la radio?
Oui, on est live. On ne peut pas être plus live que ça.
Oh, OK. J'aimerais ça, si possible, garder l'anonymat.
OK.
Que j'aimerais dénoncer.
OK.
Je ne sais pas aussi comment on fait pour dénoncer puis si c'est correct de le faire.
Oh, mais là, on parle d'une situation de quelle envergure, disons, de quel type de...
Ben, on parle de quoi qui est très grave, selon moi, puis ça vise un enfant.
Oh!
Ah, c'est pas forcément la place publique.
Ouais, là, je pense que ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être que tu pourrais nous écrire via le live et on pourrait t'envoyer là, les coordonnées pour des ressources sociales là, qui pourraient assurément aider, là, parce qu'à la radio, je suis pas sûr que c'est une bonne idée.
Ben, il est là, le problème.
OK.
Oui.
Comment je pourrais vous dire ça en respectant tous les principes de la loi?
Oui, c'est ça qui est touché mais, là, à la radio comme ça. Tu sais,
mais disons qu'un enfant a confié vivre des choses difficiles à des adultes responsables qui auraient eu le devoir de respecter certains protocoles dictés par des lois.
Oh, c'est pas du tout flou ça, mon ami, mais écoute, si tu peux nous envoyer plus ample détails sur la situation...
Écris-nous par texto, 418-670-9098, puis on va t'envoyer des liens et des... je connais quelqu'un qui est travailleur social aussi, là, peut-être qu'il pourrait t'aider là, également.
Exact.
Je vais te l'envoyer personnellement.
Alors, on attend ton message texte.
C'est bon?
Cool. C'est bon, absolument.
Ben oui, parce que quand on entend des doutes comme ça chez une personne, moi déjà, ça me fait sonner plusieurs signaux d'alerte en dedans de moi. Donc, ce qui est bien, c'est de se mettre à l'écoute des protections. C'est se mettre à l'écoute des signaux qui nous disent « Ben, j'ai un doute, j'ai peur, ça se pourrait que ça dérape, ça se pourrait que ça délicat. » Ben, c'est probablement pas la place publique, le bon endroit pour commencer la réparation, alors.
Non, absolument pas. Puis on peut tomber dans le... Ah non, c'est risqué. Là. On pouvait pas aller plus loin, malheureusement.
Ben,
mais
c'est surtout que d'après ce qu'on comprenait, on comprenait rien.
Exact. Alors,
non, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose quand même de grave, peut-être. Là, donc, j'espère que la personne va nous contacter.
Ben, je sais pas. En tout cas, on verra bien s'il nous écrit.
Bon. En tout cas, je vais le référer. Donc, pour qu'on soit avec la valorisation, alors, finalement, t'es beau quand tu fais la vaisselle. C'est comme, non, ça va le motiver un petit peu plus. Et chez madame, est-ce que c'est un peu la même chose? Et c'est plus émotionnel, hein, pour madame?
Ben, si on retourne là-dessus sur les facteurs de stress, c'est, de manière générale, ce qui stresserait le plus les femmes, c'est le silence des hommes.
Mm-hmm.
Et monsieur
mais
qui
tellement.
Dit rien.
C'est vrai, ça. Ouais.
C'est la raison de consultation numéro un pour les thérapies de couple. Lorsque la demande provient de mesdames dans un couple hétérosexuel, c'est quasiment toujours ça la raison. On a un problème de communication.
Ils parlent pas.
Exact, c'est ça.
Tu parles de couple hétérosexuel. Tout à l'heure, on parlait de violence et ça me fait penser que c'est Yvon Dallaire, je crois, et toi-même, on en a déjà parlé, mais chez les couples de femmes lesbiennes, le taux de violence conjugale est quand même très élevé.
Mm-hmm.
Ouais.
Donc c'est...
Et même chez les hommes homosexuels aussi, ça doit être pour le moins violent, j'imagine.
Beaucoup moins.
Il y aurait moins, selon la recherche, moins de violence.
Mais quand ça arrive, ça doit être violent.
Ce serait destructeur, on pourrait dire.
Ouais.
Mais il y aurait une tendance à maintenir la relation plus loin. Puis c'est le fait de s'entremêler sur le plan affectif avec l'autre, avec beaucoup de proximité, qui donne l'impression qu'on est pris avec l'autre.
Ouais.
Et si on veut tisser un lien, qu'on se rapproche, qu'on est pris, puis là, ça explose, bien, il reste quoi comme issue? C'est graffiné sur les gens qui sont autour de nous, puis là, ça blesse les autres. Donc, une personne qui souffre intérieurement peut blesser les autres autour d'elle sans le vouloir. Puis là, ça fait deux personnes blessées. Où est la source de la blessure à ce moment-là? Bien, ça sert à rien vraiment de la trouver, là, parce qu'il y a deux personnes à aider.
Puis ce que Mel disait concernant les couples lesbiennes qui seraient plus enclins à être violents l'une envers l'autre, est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier? Est-ce que ça n'en dit pas long sur, justement, la place de la femme et la violence dans le couple?
Moi, je le mettrais plus en termes de proximité.
Ah oui?
De désir de proximité.
Puis quand on parlait aussi de 51% des femmes qui initient le premier conflit. Mm-hmm. C'est ça, le 51%? Ah, c'est ça. Donc, imagine deux femmes ensemble, je veux dire.
Peut-être ça catapulte.
Ouais.
Ben, le mécontentement s'exprime. Puis, ouais.
Deux cycles menstruels à gérer dans le mois. Ouais.
Je ne voulais pas aller là,
deux
mais
semaines,
écoute.
Deux SPM.
Ils ont tendance à se synchroniser. Hein,
je le sais. Ça, c'est un mystère. Hein, parce que même en prenant la pilule en continu, quand je l'arrête, je tombe en même temps que ma sœur.
T'es sérieuse?
Oui. Les femmes qui se côtoient ont un cycle menstruel qui finit par se synchroniser.
Oui, sans pilule là, pour leur donnancer de manière...
C'est fou.
Excessive, tout se synchronise. Ben, c'est pour favoriser la vie en tribu.
Tout part de là, tout le temps.
Ben, on est encore très
habité. Tout part de la vie en tribu. Tout part de la vie en tribu.
Non, mais tu sais, comme les hommes d'âge mûr qui sont attirés par des femmes beaucoup plus jeunes,
ouais.
Qui seraient, selon Dr. Yves Psalti, des incompétents sexuels, ça, on ne sait pas trop.
Il dit ça?
Mais oui, il dit ça.
Ah, sacré.
Il dit que les hommes d'âge mûr...
T'es pas d'accord avec ça,
qui se tournent vers des femmes beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience... Ce serait des incompétents sexuels qui ont un peu plus de confiance en eux que lorsqu'ils se retrouvent avec des femmes d'âge mûr qui ont de l'expérience. Mais c'est aussi parce que, bon, biologiquement, là, l'humain veut procréer, donc lui, il va regarder les femmes un peu plus jeunes.
Oui, c'est ça.
Inconsciemment, là, mais...
Oui, peut-être.
Ça dépend du paradigme dans lequel on réfléchit ces affaires-là. Il n'y a pas une seule réponse simple.
Non, effectivement.
On approche l'autre avec notre corps, avec notre cœur, avec nos attentes. Mais c'est vrai qu'il y a des marqueurs biologiques d'attirance qui sont universels à l'espèce. Là,
oui, absolument.
De manière générale. Puis là, les gens ont bien de la misère ça, à faire la différence entre leur préférence personnelle puis la réponse d'attirance, mettons, générale. Parce que notre esprit n'est pas fait pour réfléchir en termes de statistiques. Il est fait pour réfléchir en termes d'intuition. Il reste-tu de la moutarde dans le frigo? Ouais, probablement. Voilà, ça sert à ça, l'intuition. Ça sert pas à faire des précisions exactes sur le taux de croissance de la moutarde en France qui va être exportée. Ça demande des statistiques avancées. C'est laborieux pour l'esprit. Fait que déjà, quand on sait ça, on est un peu plus humble sur notre capacité de dire « L'être humain, est-tu logique? » Parfois.
Ouais. C'est difficile, surtout en amour.
Ah oui, l'amour, ça perturbe le jugement.
Oui, vraiment. Il y a quelqu'un qui demande, ça marche-tu avec les collègues de travail, le cycle menstruel qui se synchronise? Oui, oui, c'est les femelles qui se côtoient.
C'est ça. S'il y a pas de, si les gens ne prennent pas la pilule, mettons en continu, ou les cycles menstruels ne sont pas régulés par des stérilets ou tout ça, ils sont laissés libres, ça a tendance à se synchroniser.
Oui, vraiment. C'est assez, assez étonnant. Quelqu'un dit ça là, que c'est faux, les règles qui synchronisent. Ben, c'est en tout cas, moi, personnellement, que ce soit avec des colocs, des amis, ma sœur ou des gens que je côtoie,
la personne l'a bien dit, ça a de l'air.
Ça a l'air que.
Donc, ne serait-ce pas un commentaire d'intuition?
Oh! Effectivement. Docteur Paul Simard, c'est déjà bientôt la fin. Peux-tu nous dire comment est-ce qu'on peut te retrouver un peu partout?
Ben moi, pour me trouver, vous avez juste à regarder sur le web, vous tapez DR pour docteur, Paul Simard, psychologue, mes coordonnées sont partout, écrivez-moi en privé, puis je vais vous envoyer tous les détails reliés à mes consultations, reliés à mes programmes de formation.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes programmes de formation en ligne, tes ateliers que tu offres, qui ont l'air hyper intéressants?
Moi, j'ai voulu faire la synthèse de ce qui était le plus demandé par les gens en consultation. Donc, plutôt que d'avoir à passer par 60 consultations pour avoir de l'information sur la santé mentale, bien, je l'ai déjà, moi, tout pré-filmé, condensé dans un programme. Puis je les donne à mes clients à la première consultation, mais sinon, les gens peuvent l'acheter aussi sans passer par une consultation.
On achète ça en ligne.
C'est ça, sur mon site web. Puis
c'est vraiment bien, tu m'y as donné accès, moi, puis c'est excellent, sincèrement.
Ouais, t'es allé dedans,
ça? Oui, absolument.
Il faut que j'y aille, moi aussi, tu m'avais donné les accès, en plus.
Mais toi, t'as trop d'affaires à faire.
La richesse, qu'il y a dans les formations que t'offres en ligne, c'est phénoménal. Puis si on va de l'autre bord, là, toi, t'es tout le genre de psychologue qu'il faut attendre 3 mois avant de consulter?
Ouais.
Non, ouais. J'ai de la place. Dans 4 jours, j'ai de la place.
Arrête donc, toi.
Eh oui. Hey, ça, là, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de voir une psychologue. Mm-hmm. Puis finalement, ça prend un match. Hein. C'est quelque chose de trouver la bonne personne, le bon psy.
Ouais, puis les gens ne savent pas vraiment magasiner.
Non, c'est pas évident. Tu peux pas magasiner parce que la majorité du temps, c'est disponible dans 8 mois.
C'est vrai.
Puis comment tu magasines aussi?
C'est ça.
Ben, c'est pour ça, moi, que je partage du contenu sur le web. C'est pour laisser voir aux gens à quoi ça va ressembler s'ils viennent me voir. C'est à peu près ce niveau de langage-là.
OK.
Puis j'ai plein de collègues psychologues là, qui sont dans ce mouvement-là aussi, qui partagent du contenu vidéo. Donc, recherchez ça sur les réseaux sociaux, là, des psychologues, peu importe l'application sur laquelle. Il y en a plein qui produisent du contenu de plus en plus. Je le sais, j'en coach une 50aine. Fait que... L'idée derrière ça, c'est d'offrir à voir ce qui est trop mystérieux souvent. Fait que l'image cliché du psychologue qui fait puis qui est à la semaine prochaine.
Ben, toi, t'es dans l'action beaucoup.
Ouais, ben moi, personnellement, j'aime bien expliquer aux gens. Donc, c'est pas forcément. Le faux sujet, là, souvent, c'est que les gens pensent qu'ils viennent en thérapie pour parler de leur passé. C'est pas forcément vrai. Moi, je pense qu'une thérapie, ça devrait être pour parler de ce qui va s'en venir dans ta vie. Puis oui, on va parler un peu du passé pour c'est tracer la trajectoire. Mais le vrai objectif, ça devrait être, viens, là, puis écoute comment ça marche, la psychologie. Il y a des centaines de milliers d'heures d'études qui ont été faites. Je vais t'es expliquer. Puis on va les personnaliser avec le cas de la personne.
Puis comment on peut mettre des choses en pratique pour que ça fonctionne?
C'est ça. Mais c'est pas tous les psychologues qui fonctionnent de cette approche-là. C'est pas forcément la meilleure non plus, moi, que j'ai. Mais c'est celle que
qui va fitter avec plusieurs personnes. Parce que moi, les personnes qui t'ont consulté sont très satisfaites.
Ah, super.
Ouais, vraiment.
Ça me donne presque le goût de me trouver des problèmes puis de venir dans 4 jours.
Non, c'est moi
que je pense que j'en ai beaucoup de problèmes.
Mais la seule fois où j'en avais besoin, quand c'est rendu au moment du rendez-vous, j'en avais plus besoin.
C'est ça, les gens ont besoin rapidement.
J'avais besoin là, tu sais, je décide de consulter, c'est là, j'ai besoin d'éclaircir, tout ça. Puis là, je suis arrivé à mon rendez-vous, j'avais plus rien.
Moi, j'ai même un programme qu'à chaque semaine, les gens peuvent me poser des questions à l'unité, puis j'appelle ça questions confidentielles.
Mmh.
Fait comme ça, ils vont sur mon site, ils peuvent acheter une dizaine de questions ou une question confidentielle.
T'envoies la réponse.
Puis moi, je réponds à chaque semaine dans mon groupe en live.
C'est bien cool, ça, comme programme.
Ouais. Fait comme ça, ça l'anonymise, ça protège les gens, puis ça permet d'avoir une réponse.
Wow!
Vendredi, je fais la 131e heure de réponse. On va pogner le 2000 réponses données aux auditeurs là, sur leurs questions. Puis tout ça, c'est en backup dans mes archives. Je le donne en formation, ça aussi.
Vraiment cool.
Bravo. Wow,
ça aide beaucoup de gens.
Oui, très hot. Merci beaucoup, Dr. Paul Simard, psychologue, toujours très intéressant. Les auditeurs présents sur le live et sur le live TikTok le mentionnent également. C'était très intéressant. Merci tout le monde d'avoir été là. Jonathan, Rosie, Grégory, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de pouvoir vous lire ce soir. Merci Simon de Berthierville, Alexandre, Sophie, Jacques, Diane. Merci d'avoir interagi avec nous. Merci, mon cher collègue, mon acolyte d'amour,
merci
Max.
Merci à toi. Je t'aime beaucoup, merci.
Max,
hein,
vous pouvez aller voir en story, là, Max, il me fait un doigt d'honneur.
Hey! T'as mis ça en story? Voyons donc.
Ah oui, sur mon Instagram.
Je t'ai fait un doigt d'honneur, mais c'est un doigt d'honneur d'amour.
Un doigt d'honneur d'amour!
Oui, c'est parce que tu me filmes, j'aime pas ça me faire filmer.
I know, c'était magnifique. Magnifique.
Bon,
donc, je suis en compagnie de deux guitaristes et je vous mets au défi de me jouer de la guitare la prochaine fois.
Ouais, mais pas les bons, pas les chantes en plus. Là.
Mais
Ouais.
On a un tabarouette, hein, ça va être un show musical une bonne fois. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vous promets de prendre du mieux et de revenir avec toute ma belle énergie bientôt. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Exploratrice Radio X.